Voilà de retour et on va poursuivre notre discussion sur la boxe puisqu'on aura, on a Yvon Michel maintenant qui est au bout du fil, qui revient lui aussi de Flint au Michigan. Salut Yvon!
Oui, salut Dernier.
Yvon, avant de parler du combat d'hier, parlons un petit peu de écoute, cet adversaire qui était devant Marie-Ève Dicker, je disais tout à l'heure avec elle que dans le monde de la boxe, il y a toujours 10 et 12 façons d'éviter des adversaires coriaces, d'éviter des adversaires dangereux. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu cette discussion entre toi et elle à savoir, est-ce qu'on embarque là-dedans? Est-ce qu'on met à risque notre ceinture de championnat du monde qui, on va se le dire, pour Marie-Ève, là, et je veux dire, on l'a pas vu nulle part dans les deux dernières années sans cette belle ceinture bleue un peu partout. On dirait que c'est devenu identifiable à elle. Est-ce qu'il y a eu cette discussion à savoir est-ce qu'on veut mettre ça à risque?
En fait, oui, c'était, ça faisait partie des options. Quand je lui ai offert le combat avec Clarisse Tosil, on a discuté, je lui ai dit, je pourrais, Marie, te garder championne pendant plusieurs années. On choisit les adversaires, mais là, on a une opportunité. Et pour elle, là, elle n'a pas hésité. Elle, c'est une fan de boxe en premier. Elle prêche par l'exemple. Elle dit les meilleurs devraient toujours se battre avec les meilleurs. Et elle avait envie de savoir qu'est-ce qu'elle valait par rapport à Clarisse Tosil. Et donc, à partir du moment qu'elle m'a donné ce mandat-là, ben là, je me suis assuré de lui avoir les meilleures conditions. Puis, on est allé de l'avant. Elle a livré, elle s'est bien préparée. Et elle a livré le combat qu'elle pouvait.
Bon, elle nous a dit tout à l'heure que le fait que c'était un tout premier événement, un gala de boxe féminine de A à Z, maintenant aussi offert sur pay-per-view, c'était un moment historique pour le monde de la boxe, que ça l'avait encore motivé encore plus de dire « je peux pas refuser ce type d'offre-là si je veux faire avancer mon sport, surtout chez les femmes ». Est-ce que c'est ce que tu as ressenti de sa part?
Oui, tout à fait. Les filles prennent de plus en plus de place dans la société en général, prennent leur place. Elles prennent de plus en plus leur place dans le sport. Et c'est la même chose dans la boxe. Clarisse Shield, elle s'est donnée comme mission d'amener le sport de la boxe à un niveau aussi populaire que les femmes dans le UFC. Et pour ça, elle avait besoin du meilleur adversaire possible. Et pour réaliser ses objectifs, le meilleur adversaire possible était Marie-Ève. Marie-Ève aussi a embarqué là-dedans. Marie-Ève, à chaque fois qu'elle est montée sur le ring au Québec, elle a fait l'histoire. La première femme qui a fait une finale, la première fois femme qui est devenue championne du monde, la première femme qui a fait une finale dans un grand amphithéâtre. Et là, est la première Québécoise, en fait, le premier Québécois, peu importe le genre, avoir livré un combat avec les quatre ceintures à l'enjeu.
Mais oui.
Et la première, encore, peu importe le genre, avoir livré un combat à la télé à la carte, qui était présenté à la télé à la carte aux États-Unis. Et pourtant, on en a eu des bons boxeurs.
C'est vrai.
On a fait tous les réseaux à peu près, mais jamais on est allé à ce niveau-là. Donc, elle est embarquée là-dedans avec détermination, avec confiance. C'est certain que quand tu embarques là-dedans, tu te dis pas « je vais faire de mon mieux », tu te dis « je vais gagner ce combat-là, on va trouver les façons de gagner ce combat-là ». Et moi, là, j'ai rien à reprocher à Marie-Ève. Marie-Ève, là, elle amène son charisme, sa féminité dans ce sport de la boxe, mais elle a démontré hier qu'elle n'est pas fragile. C'est une femme forte, courageuse, qui a une mâchoire d'acier et elle n'a jamais cessé d'essayer. Elle n'a jamais perdu espoir jusqu'à la fin. Quand elle arrivait dans le coin, là, c'était vraiment beau à voir. Elle ne se plaignait pas, elle ne disait pas que ça lui faisait mal. Elle était très attentive à essayer de trouver avec nous une solution. Et là-dessus, le chapeau à Stéphane Arnois. Je le remercie aussi qui m'a donné la chance de travailler avec lui. Le Marie-Ève me fait vivre ce combat-là. Comme ça faisait longtemps, j'avais vécu un combat. Mais peu importe le résultat, pour moi, Marie-Ève Ducard vaut plus aujourd'hui. Elle a grandi malgré la défaite. Et moi, je vais en conserver un souvenir inoubliable.
Ben, écoute, comme tu viens de le mentionner, moi, j'ai été surpris de voir que les rondes avançaient et elle demeurait très active, 8e, 9e, jusqu'à la toute fin. Elle n'a jamais abandonné, même si elle savait probablement que le combat à ce moment-là était impossible à gagner. Mais comment tu as vécu ça, toi, pour la première fois depuis des années, à être dans le coin d'un boxeur?
Mais ils m'ont permis d'embarquer avec eux dans les dernières semaines. Je suis allé faire un tour au gymnase, j'ai parti aux réunions d'équipe et à partir du moment où on est arrivé là-bas, j'ai vraiment fait partie de l'équipe, l'équipe à part entière comme entraîneur, comme en fait assistant entraîneur. Tu sais, là-dessus, moi, j'avais pas beaucoup de pression, j'avais juste le beau rôle. La pression était sur Stéphane qui, lui, avait préparé Marie-Ève et lui, dans le fond, comme Marie-Ève, c'était un peu un examen. Moi, de l'autre côté, j'avais pas de pression, je prenais juste les belles choses, mais j'ai vraiment trippé, Jérémy, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a rappelé pourquoi j'avais fait ce métier-là pendant aussi longtemps.
Excellent. Écoute, je veux te poser encore, j'ai plusieurs questions, on va y aller quand même en rafale. Comment as-tu aimé ton expérience avec l'organisation du gala là-bas, l'association avec Fight? Là, moi, c'était la première fois en tant que journaliste que j'avais affaire avec eux. Ça s'est très bien passé, soit dit en passant, mais est-ce qu'on va en avoir d'autres galas de ce type et comment as-tu trouvé l'organisation?
En fait, Fight, c'est... l'un des partenaires numériques de la télé à la carte, on a signé une entente à long terme avec eux. Donc, ils vont être présents avec nous, tout comme Yop, comme Canal Indigo, comme Bell TV, comme Shaw TV et comme RDS. Donc, l'année qu'on a passée nous a permis de redéfinir nos partenariats, de regarder les choses différemment pour pouvoir aller de l'avant. Le promoteur Dimitri Salita, c'est un promoteur qui a beaucoup de potentiel. Il est jeune, il n'a pas encore 40 ans, je crois. Il a déjà été un bon boxeur, il est bien entouré. Il y a encore des choses à apprendre, à mon avis, mais les relations ont été très, très bonnes du début à la fin.
Bon, justement, quand tu parles des choses à apprendre, il y a une petite controverse concernant la grandeur du ring. Petite controverse, une grosse controverse, parce que quand on a une entente à savoir, ben ça doit être un ring 20 par 20, puis on se retrouve là-bas, puis c'est du 16 par 16. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là et comment as-tu pu manœuvrer autour de cela?
Ben, en fait, on est allé visiter la place la veille du combat. En arrivant, Marie-Ève a dit... « Hey, c'est un ring du casino, ça. » J'étais pas certain, c'est à cause des perspectives. Donc, on a pris un galon mesuré.
Ouais.
On a mesuré le ring. Il y avait un des assistants du promoteur de Dimitri Salita qui était là. Puis, on l'a vu sourire en coin en voulant dire hein, « on vous a eu ». J'ai juste pris mon téléphone. Je suis allé chercher les règlements internationaux. J'ai écrit un petit email poli au promoteur. J'ai mis en copie le président de la WBC. J'ai mis en copie le superviseur qui était le responsable du Michigan. Et j'ai dit, maintenant, voici, vous n'êtes pas réglementaire. Qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à ça?
Eh, bah boy. Là, on est quoi? On est la veille du combat, là?
Oui, il est à peu près 7 heures le soir. Là, on m'a appelé pour me dire que la première chose, on me dit que bon, il n'y avait pas de ring autour, que c'était pour être difficile. Que j'ai dit OK, c'est difficile, mais c'est d'abord, j'imagine que tu vas trouver quand même la solution. Et j'ai jamais levé le ton, j'ai pas eu besoin. J'ai dit à un moment donné, regarde, c'est un jeune promoteur. On va sûrement avoir à travailler ensemble encore dans le futur. On a eu de bonnes relations jusqu'à présent et je vois pas pourquoi tu t'assurerais pas que nos relations restent au même niveau. Et il m'a dit OK, désolé, je m'excuse, puis on avait un autre ring le lendemain matin.
Bon. Ben, là-dedans, est-ce que, parce qu'on veut aussi que les boxeuses puissent gagner des bourses plus importantes. On le sait, là, Yvon, on embarque dans un ring, on sait comment on rentre, on sait pas comment on sort. Il y a toujours un risque à notre santé, donc on veut que financièrement, ça vaille la peine. Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Est-ce que ce type d'événement-là va aider les athlètes à gagner de meilleures bourses? Est-ce que ça a été le cas pour Marie-Ève ou est-ce que ça va la propulser vers d'autres choses ou des plus grandes bourses encore une fois?
En gros, là, je te dirais que la réfléchir, pour moi, là, elle est la meilleure femme en boxe que j'ai vue dans toute ma carrière. Elle est meilleure qu'aujourd'hui, ses contemporaines, c'est Kathy Taylor, Cecilia Brackhouse, McCaskill et compagnie. Dans le temps, il y a eu les Christy Martin, Lucia Riker, Leila Ali. Pour moi, Clarissa Shield est meilleure que toutes ces filles-là. Mm-hmm. Et elle et tous les sports dépendent de leur vedette principale. Et donc, je suis convaincu qu'elle va amener le sport de la boxe féminine à un autre niveau. Et Marie-Ève fait la même chose. Marie-Ève a peut-être pas les habiletés globales de Clarissa Shield, mais elle a un impact important dans son milieu, au niveau international également. Maintenant, elle est plus reconnue. Je suis convaincu que, je lui ai dit d'être alerte. Je suis convaincu que je vais la ramener en championnat du monde et elle va avoir l'occasion de redevenir championne. Et en allant chercher d'autres partenaires, en habituant les gens à regarder la boxe féminine, pas comme tu regardes un combat de boxe masculin, tu regardes ça différemment et tu apprécies le spectacle qu'elle donne différemment que si c'était chez les hommes. Mais elles vont se trouver un marché, elles vont se trouver du monde ou des spectateurs, des gens qui vont vouloir payer pour les regarder évoluer. Et c'est de cette façon-là qu'elles vont aller se chercher des bourses qui vont se rapprocher de plus en plus de ce que les hommes vont chercher.
Bon, justement, dernière question, parce que là, tu parles de ramener Marie-Ève Dicker dans un combat de championnat du monde, et là, les gens doivent se dire, ben là, coudonc, Shields a toutes les ceintures, comment il va faire ça? Mais ce qu'on entend dire, c'est que Shields aurait l'intention de changer de catégorie de poids, encore une fois, et qu'elle pourrait abandonner ses ceintures et qu'elle deviendrait vacante, donc encore une fois, pour que les aspirantes suivantes puissent avoir une opportunité de mettre la main à nouveau sur celle-ci. Donc, c'est ça un petit peu qui se dessine pour l'avenir?
En fait, avec la performance que Marie-Ève nous a donnée hier, elle va rester très haut dans les classements. Et les opportunités pourront être, oui, peut-être que Shields va abandonner ses ceintures pour retourner. En fait, c'est ce qu'on nous a dit au départ. Mm-hmm. Donc, si c'est ce qui se passe, c'est sûr, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y aurait 4 ceintures de libre. C'est sûr qu'on va repartir à l'assaut d'une des ceintures. Mais potentiellement aussi, on regarde ça. Marie-Ève, elle nous a toujours dit qu'elle aimerait ça redescendre, d'aller faire un tour à 147 livres. Mm. Et on va regarder avec beaucoup d'intérêt le combat de Cecilia Brackhouse contre McCaskill, je pense que la semaine prochaine ou l'autre après. J'ai de très, très bonnes relations avec le promoteur de Brackhouse, qui est Tom Loeffler. Donc, c'est pas impossible aussi qu'on aille dans cette direction-là. C'est pour ça que je disais à Marie-Ève, il faut pas que tu te décourages. Il faut que, là, maintenant, là, tu fais le vide. Mentalement, c'était une année difficile. De toute façon, elle est obligée d'être 14 jours enfermée chez elle.
C'est ça. Ça va être le vide dans l'appartement, comme on dit.
oui, tout à fait. Mais moi, je vais être à l'affût, je vais regarder ça de près, je vais m'assurer auprès de toutes les associations pour leur dire que Marie-Ève va être prête à revenir rapidement et donc être vraiment prêt à sauter sur l'occasion quand ça va se présenter.
Excellent, merci beaucoup. Bon retour au Québec, bonne quarantaine. On vous salue puis on se reparle très bientôt.
Merci, Jérémy. À la
merci
prochaine.
Beaucoup. Yvon Michel, promoteur et bien sûr grand patron de groupe Yvon Michel, qui fait son retour de Flint au Michigan suite à la défaite de Marie-Ève Dicker hier soir. On s'arrête le temps d'une courte pause. Au retour de ceci, on va parler de baseball. Pourquoi? Parce que tranquillement, pas vite, le baseball pour les jeunes va reprendre. Les inscriptions, ça s'en vient. On va parler à Jean-François Julien, qui est directeur des Petites Ligues au Canada, qui va nous parler de comment ça se passe et justement où et comment on peut inscrire nos jeunes au baseball cette année.